Bienvenue dans l'accent des autres, votre rendez-vous d'actualité avec les médias francophones publics, la RTBF, France Bleu, RFI, Radio-Canada et la Radio-Télévision Suisse. Et cette semaine, nous évoquerons tout d'abord la mobilisation sociale en France, en Belgique. Elle s'explique en grande partie par la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation. Cette manifestante de Châteauroux le résume très clairement.
En fait, tout augmente sauf notre salaire.
Les actions en France jeudi ont surtout paralysé les transports en région parisienne, alors qu'en Belgique, Jacques Crémers, le pays a tourné au ralenti mercredi. Les syndicats appelaient à la grève pour réclamer là aussi des augmentations de salaire.
Oui, elle était annoncée de longue date et cette grève a été bien suivie, mais face au blocage entre syndicats et patrons, la balle est renvoyée dans le camp du gouvernement.
En Afrique, au Tchad, la peur règne dans les rangs de l'opposition depuis la répression meurtrière de manifestations il y a 3 semaines, Nicolas Sûr.
Des militants du parti Les Transformateurs, notamment, se disent traqués.
En Suisse, Laurent Caspari, les réfugiés ukrainiens pourront rester une année encore. Le gouvernement a prolongé leur statut de protection.
Ils sont près de 70 000 chez nous. Ils ont la possibilité de travailler sans passer par la procédure d'asile. Mais ces réfugiés devront retourner chez eux dès que la situation sur le terrain le permettra.
Il sera question de réfugiés au Québec également. Le nombre de demandeurs d'asile y est en effet en forte progression. Et les structures d'accueil sont débordées, Benoît Audet.
Le nombre de demandeurs d'asile pourrait frôler les 40 000 au Québec d'ici la fin de l'année et la très grande majorité d'entre eux se retrouve à Montréal.
Semaine de mobilisation sociale donc en France tout d'abord, où les appels à manifester des syndicats en faveur du pouvoir d'achat n'ont été que partiellement suivis. 100 000 personnes dans toute la France, selon eux, 30 000 selon le ministère de l'Intérieur. En revanche, les appels à la grève ont largement paralysé les transports publics en région parisienne. Éric Valmire, le mécontentement n'est pas prêt de s'apaiser.
De la retraite au pouvoir d'achat, les revendications pour manifester tous les jours s'il le faut ne manquent pas. Le micro d'Alexandre Moto de France Bleu Berry au cœur d'un cortège Castelroussin.
Le SMIC, c'est inadmissible de travailler 35 heures avec un si bas salaire, avec l'inflation qu'il y a aujourd'hui. Quand on compte le budget essence qui a explosé au niveau des prix, la nourriture, plus les loyers qui augmentent, les charges, en fait tout augmente sauf notre salaire. Moi qui ai 35 ans, à l'allure où on va plus avoir de retraite en fait, donc au bout d'un moment stop.
Et aussi pour la pénibilité du travail. Parce que c'est bien de nous dire qu'il faut qu'on travaille jusqu'à 65 ans parce que soi-disant on vit plus longtemps, moi je veux bien, quand on voit qu'il y a beaucoup de maladies et qu'en plus on n'en tient pas compte et qu'on nous demande de travailler encore plus dans des métiers qui sont très pénibles, vous avez le BTP, vous avez les femmes de ménage, c'est facile de dire aux gens oui, travailler jusqu'à 65 ans quand on ne fait pas le travail.
Et pas besoin d'analyse, de statistiques pour mesurer les effets de l'inflation. Un parking de supermarché suffit. Pascal Daniel de France Bleu Occitanie avec des retraités à Balma, en banlieue toulousaine.
Le coffre ouvert, caddie en main, Françoise prend le temps d'expliquer sa méthode pour ne pas faire exploser le montant du ticket de caisse.
Je fais mes menus en début de semaine, donc ce qui fait que je fais après la liste de ce qu'il me faut pour les menus, ce qu'il faut aussi pour la maison, pour l'hygiène et tout. Et après, je vais faire mes courses, voilà, c'est comme ça.
Et il y a des produits sur lesquels elle fait une croix.
Je rogne surtout ce qui est viande, escalope de dinde, poulet, escalope de poulet, tout ça, c'est devenu... exorbitant.
La viande et aussi
les fruits et les légumes.
Car Françoise et son mari Yves, retraités tous les deux, se serraient déjà la ceinture avant que l'inflation ne fasse un bond.
On ne se sacrifie pas, mais on ne peut pas d'extra.
En France, Pierre-Anne, l'inflation dépasse le seuil de 6%.
Et cette question du pouvoir d'achat était aussi au cœur de la mobilisation en Belgique. De nombreux secteurs ont été totalement ou partiellement paralysés par la grève ce mercredi. Car Jacques, les syndicats veulent là aussi de meilleurs salaires face à la hausse des prix de l'énergie.
Les transports, les écoles, les prisons, les supermarchés et même des commerçants indépendants, de nombreux secteurs étaient à l'arrêt ce mercredi. Les syndicats veulent bloquer le prix du gaz et de l'électricité, taxer les surprofits. Ils dénoncent le blocage aux indexations de la norme de progression salariale. Ils veulent pouvoir négocier des hausses de salaire, relayant ainsi les inquiétudes des travailleurs et des travailleuses face à l'inflation galopante et l'augmentation des prix de l'énergie.
Je vis seule avec mon enfant. J'ai dû augmenter mes heures de travail parce que je n'arrive plus à m'en sortir. J'ai trop de factures. Le coût de la vie est cher, les courses sont chères, la viande est chère. tout est cher.
Avant, je payais 150 par mois l'électricité et le gaz. Maintenant, je dois payer 470. Maintenant, je fais attention à tout. Pour le marché, par exemple, maintenant, je ne donne plus les biscuits comme avant. Il y a plein de choses que j'ai dit à mes enfants, je ne peux pas.
Du côté patronal, on se dit déjà étranglé aussi par l'augmentation des prix de l'énergie et par les charges exceptionnelles dues à l'indexation automatique des salaires. Des marges de manœuvre existent néanmoins, d'abord parce qu'il reste une enveloppe bien-être d'1 milliard à distribuer en 2023, ensuite parce que dans certains secteurs qui se portent bien, des exceptions sont possibles, il peut être question d'une prime ou de bonus. Enfin, le gouvernement peut agir, doper certains salaires, notamment par le biais d'une réforme fiscale. En tous les cas, la balle est plus que jamais dans son camp.
Aux politiques d'agir donc en Belgique, merci Jacques. Alors qu'en Suisse, Laurent, ce sont les partenaires sociaux qui sont en conflit dans le secteur de la construction. Les maçons ont débrayé cette semaine pour leurs conditions de travail.
La corporation a en effet donné de la voix. Ce type de manifestation est plutôt rare dans le pays où règne encore la paix du travail. Syndicats et patronats renégocient actuellement les conditions cadres de la profession de maçon. Et il s'agissait dans ce contexte de faire pression sur les partenaires sociaux pour obtenir une meilleure convention collective. La semaine dernière, ils étaient ainsi plus de 6000 dans les rues de Lausanne, derrière le slogan « Pas de maçon, pas de maison ».
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
On se rend maintenant en Afrique, au Tchad, où la mobilisation est plus politique que sociale. Le 20 octobre dernier, les manifestations contre le maintien au pouvoir du président de transition Mahamat Idriss Déby étaient réprimées dans le sang. Depuis, Nicolas, le parti Les Transformateurs, fer de lance de cette mobilisation, eh bien ce parti est dans la tourmente.
Oui, les autorités de transition les accusent d'avoir fomenté une insurrection armée. Le président du parti, Succès Masra, a fui le pays. Les militants de base, eux, vivent dans l'angoisse, comme la constaté l'envoyé spécial de RFI, Sébastien Nemeth.
Les transformateurs se méfient de tout et de tout le monde. Pour les rencontrer, il faut gagner leur confiance et organiser un rendez-vous discret à l'abri des regards. Blaise a 25 ans et se sent traqué au quotidien.
On est vraiment stressé et on est caché. On dort chez les voisins. Ma vie est en danger. Comment dire, les gens nous cherchent même par téléphone. On reçoit des appels.
C'est justement à ce moment-là que Blaise reçoit un de ces appels suspicieux.
Rassolo chez nous ?
Je ne le connais pas. Et il me dit qu'il y a une personne qui m'a envoyé avec un colis pour lui, que je dois lui remettre. Mais je ne sais pas qui c'est. Ça peut être des pièges.
À côté de lui, Emmanuel a lui aussi reçu ce genre de coup de fil, mais aussi plusieurs visites inquiétantes en pleine nuit, malgré le couvre-feu.
À 2h du matin, il est venu toquer. Tu veux me demander qui tu es ? Qu'est-ce que tu veux ? Il me dit d'ouvrir la porte. Si seulement on essaye d'ouvrir la porte, peut-être qu'ils vont entrer et puis prendre tout le monde. C'est une manière de nous effrayer, d'abandonner le parti des transformateurs.
Alfredo est mécanicien chauffeur, il se dit recherché par les renseignements, mais néanmoins il refuse d'abandonner son combat.
Souvent dans notre quartier, il y a des gens, des ANS. Ces gens me connaissent parce que parmi nous-mêmes, on ne sait pas qui est qui, parce que les murs ont des oreilles. Ces gens peuvent nous trahir à tout moment.
Malgré leur détermination, tous le confirment, les transformateurs sont affaiblis, mais...
Inch'Allah, le parti survivra.
Le reportage à N'Djamena de Sébastien Nemeth pour Radio France Internationale. Quant à la répression des manifestations du 20 octobre, on le rappelle, elle a fait entre 50 et 150 morts, selon les sources, des centaines de blessés et autant d'arrestations. Retour en Europe, en Suisse, où le gouvernement a décidé de prolonger d'une année supplémentaire le permis spécial qui permet aux réfugiés ukrainiens de résider et de travailler dans le pays, Laurent Gasperi.
Depuis le début de la guerre, le 24 février dernier, environ 70 000 personnes, une grande majorité de femmes et d'enfants, ont bénéficié de ce statut de protection ou permis S, un statut qui existe dans la législation suisse pour offrir une protection rapide et provisoire aux personnes victimes d'un conflit et qui a été actionné pour la première fois à l'occasion de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Donc ce statut, il est équivalent au statut de protection provisoire de l'Union européenne. Est-ce qu'il est bien accepté en Suisse ?
Alors cette première a été unanimement saluée tout en déclenchant un large débat, notamment dans les milieux de soutien à l'asile, sur le fait que ce statut soit réservé aux Ukrainiens, tandis que de nombreux autres réfugiés non européens qui fuient également des conflits ne l'obtiennent pas. Mais la Confédération garde son cap et estime que ce statut S a prouvé son efficacité et que de toute façon la situation sur le terrain impose une telle prolongation. On écoute la conseillère fédérale Karine Keller-Souter en charge du dossier de l'asile.
Je crois qu'on n'a pas le choix. En vue aussi la situation toujours en Ukraine, la guerre atroce, aussi la situation des personnes civiles qui sont attaquées, les infrastructures énergétiques qui sont attaquées, aussi vu le fait qu'au niveau de l'Union européenne, européenne. Il y a aussi une non-levée, pour ainsi dire, du statut de protection provisoire. C'est donc un peu le même système au niveau européen.
La politicienne de centre-droit est par contre très claire. Une fois que le conflit sera terminé, le statut S sera levé et les réfugiés ukrainiens devront rentrer. C'est un statut provisoire orienté vers le retour, précise-t-elle. Et l'Ukraine elle-même le souhaite. Elle aura besoin de toutes ses forces vives pour reconstruire le pays. On estime que 7 millions d'Ukrainiens sont actuellement réfugiés hors des frontières du pays.
Ces réfugiés-là viennent plutôt d'Amérique latine, mais aussi d'Afrique, et ces migrants empruntent de façon irrégulière un passage à la frontière entre les États-Unis et le Canada, au sud de Montréal. Ce flux migratoire est incessant et les foyers qui les hébergent à Montréal ne suffisent plus à répondre à la demande, Benoît Audet.
Ce sont 30 000 personnes qui ont franchi la frontière depuis le début de l'année à un point de passage irrégulier appelé le chemin Roxham. Il y a des structures en place pour les accueillir, mais ces centres d'hébergement débordent maintenant, à tel point que les refuges pour les sans-abri sont maintenant sollicités et que des migrants se retrouvent carrément à la rue.
Et rien n'indique que ce flux migratoire à la frontière canado-américaine va se tarir.
Non, des populations entières continuent de fuir les zones de guerre, les violences ou la pauvreté. Et en vertu d'une entente entre le Canada et les États-Unis, si un migrant fait une demande d'asile à un poste frontalier canadien en provenance du sud de la frontière, il sera automatiquement refoulé puisque les États-Unis sont considérés comme un pays sûr. Donc, les personnes qui veulent absolument demander l'asile au Canada doivent emprunter des passages irréguliers comme le chemin Roxham.
Au-delà du constat, Benoît, est-ce que des mesures sont envisagées pour modifier cette donne?
À Ottawa, des partis d'opposition demandent la suspension de cette entente. Le gouvernement de Justin Trudeau préfère de son côté l'améliorer. L'affaire est aussi devant la Cour suprême du Canada. La décision du plus haut tribunal au pays n'a pas encore été rendue.
Benoît Audet pour Radio-Canada, merci de votre fidélité à notre rendez-vous. Vous retrouvez l'Accent des autres la semaine prochaine à la même heure ou en tout temps sur les différents sites des radios francophones publiques.